Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à toutes et à tous, dernière semaine pour 48FM à la rédaction en chef du carnet de région. Ludovic Thérol à la préparation et Guillaume Delorme à la présentation pour ce 34e magazine de l'année 2015. Un magazine d'information régionale proposé par les radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. Au sommaire aujourd'hui, les 19e éco-dialogues du Vigan pour penser l'homme dans son environnement, un sujet de radio-escapade. L'inauguration de l'espace événement Georges Fraîche à Mende, un sujet de 48FM. Puis deux prix dans ce carnet de région, le prix de la très petite entreprise, organisé sur 5 territoires de l'Hérault et un du Gard, un reportage de Radio Lodev, et un autre prix, le Cabri d'Or, prix littéraire de l'Académie Sévenol, dont nous parlera Yves Defago de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Lozère, Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.
On commence ce carnet avec la mairie du Vigan qui organise les 19e éco-dialogues du Vigan pour penser l'homme dans son environnement. Clémence Boisson, l'élue en charge de l'organisation, nous présente cet événement qui se tient du 12 au 14 novembre.
Alors, les éco-dialogues du Vigan, c'est une université populaire en milieu rural, c'est comme ça qu'on aime à la définir, qui a été créée en février 2010 par un collectif de citoyens et d'élus de la commune du Vigan et d'alentour, qui a réuni déjà de nombreux invités au Vigan. On en est à la 19e édition.
Ouais, donc ça fait, il y a déjà une belle histoire derrière quand même, parce que 19e édition...
Exactement, avec des moments très riches, très forts. On a eu de grands invités comme Isabelle Autissier, Pierre Rabhi et Stéphane Hessel, notamment bien sûr.
Et à chaque fois, vous prenez une thématique différente. Cette année, c'est révolution. Alors avec le R entre parenthèses, ça peut être aussi évolution des savoir-faire. Pourquoi cette thématique ?
On a d'abord beaucoup traité des thèmes un peu plus environnementaux directement, comme l'agriculture, l'eau... la santé, les animaux, les paysages. Et c'est vrai que là, c'est une thématique un peu plus large, mais qui est au cœur de préoccupations qui peuvent toucher aussi notre environnement, puisque on sait tous que aujourd'hui, on consomme parfois sans connaître l'origine des objets qui nous entourent. Et le retour des savoir-faire, c'est aussi une forme de respect de notre environnement. En fait, les bergers se sont rassemblés pour réfléchir à cette situation. Et on a aussi le parc des Cévennes, le parc national des Cévennes, qui souhaite mener une réflexion là-dessus, notamment depuis que les Cévennes et les Causses ont été labellisés par l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le rôle que peuvent avoir nos bergers, les bêtes qui sont dans nos territoires. Et bien sûr, relocaliser la laine et la production de toute une industrie.
Parmi les intervenants de l'édition 2015, il y a Marc Bayard, conseiller pour le développement culturel et scientifique au Mobilier National, qui nous parle ici du mouvement Slowmade qu'il a créé.
Le Slowmade est une rencontre, si je puis dire, avec moi-même d'abord, et puis après une rencontre avec l'époque. C'est-à-dire que je suis un peu issu de la non-moule. C'est-à-dire que je n'ai jamais été fait pour les concours, jamais été fait pour la rapidité, mais j'ai été fait plutôt pour la lenteur, ce que j'ai appelé la pensée de la mâchure, où j'avais l'impression de ruminer mes idées, et puis de temps en temps ça sortait. Et en fait, en condensant mes expériences personnelles de chercheur en histoire de l'art, puis la vie italienne avec le slow food, et puis enfin la découverte des métiers d'art en France, il me semblait pertinent de remettre le temps au centre de nos préoccupations, en sachant que le slow-made, c'est pas fait lentement, mais c'est fait avec le temps nécessaire, donc ça peut être aussi bien rapide que lent, mais c'est cette dimension temporelle, dans une manière de vivre, dans une European way of life, si on peut dire, où finalement les structurations en millefeuille du temps sont très importantes pour nos territoires, nos terroirs et nos manières de vivre. Donc voilà un petit peu l'essence du Slow Made qui a été lancé en 2012 avec le Mobilier National où je travaille et l'Institut National des Métiers d'Art, ce qui a permis de faire une espèce de produit, ou pas une espèce, une forme de marketing, mais avec du fond, pour tous ces métiers qui ont le temps en partage et le savoir-faire.
Les éco-dialogues sont aussi le lieu de synergie pour le développement d'initiatives, comme la structuration de la filière laine en Pays Viganais. Un produit qui n'est plus valorisé, ce que nous explique Clémence Boisson.
En fait, les bergers se sont rassemblés pour réfléchir à cette situation. Et on a aussi le parc des Cévennes, le parc national des Cévennes, qui souhaite mener une réflexion là-dessus, notamment depuis que les Cévennes et les Causses ont été labellisés par l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme. Il y a une vraie réflexion à avoir sur le rôle que peuvent avoir nos bergers, les bêtes qui sont dans nos territoires, et bien sûr relocaliser la laine et la production de toute une industrie.
Au-delà des rencontres du Vigan, les éco-dialogues, c'est un réseau avec les éco-dialogues du Grand Orbe à Bédarieux, les éco-dialogues de Thau. Plus d'infos donc sur www.eco-dialogue.fr. Un sujet qui vous était proposé par Pierre Isnard Dupuis de Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
La semaine dernière, l'espace événement Georges Fraîche à Mende a été inauguré, un bâtiment qui propose en tout 2500 m² à destination des utilisateurs. La salle au rez-de-chaussée sera capable de recevoir des expositions, foires, salons, concerts et le marché du samedi. Et la salle à l'étage peut accueillir des congrès et des fêtes familiales. Elle est entièrement modulable par des cloisons acoustiques. Ainsi, l'étage peut être situé en 2, 3, 4 salons selon les demandes des utilisateurs. Enfin, une cuisine complètement équipée de matériel professionnel et moderne permet de servir jusqu'à 600 couverts. Mais ce qui a marqué l'inauguration est le nom de l'espace événement. Claude Cougnac, le président de Georges Fraîche Association, était d'ailleurs présent, de même que Claudine Fraîche, l'épouse de l'ancien président de région et maire de Montpellier. On écoute Claude Cougnac.
5 ans après le décès de Georges Fraîche, on voit toujours fleurir sa mémoire sur l'ensemble du territoire régional. Mais aujourd'hui, c'est un moment particulier, parce que d'abord, on se retrouve en Lozère, sur une terre que Georges Fraîche avait appréciée et dans laquelle il aimait se retrouver, notamment, peu de gens le savent, mais il y passait beaucoup de week-ends et beaucoup de vacances avec ses amis et sa famille. Et puis on inaugure aujourd'hui un équipement, j'allais dire, qui porte la griffe et l'âme de Georges Fraîche par sa dimension, son ampleur et puis son utilité. Je crois que c'est un équipement qui va réellement positionner Mende en tant que chef-lieu départemental dans cette préfecture de la Lozère. Je crois qu'on le voit d'ailleurs sur l'ensemble de la région où je participe à la dénomination d'une dizaine de bâtiments tous les ans. Et ce sont souvent des bâtiments, alors selon la taille des communes bien évidemment, mais où on sent bien que les élus ont souhaité que le nom de Fraîche s'attache à des monuments exemplaires, à des réalisations exemplaires, à la fois dans le fait de servir la population et à la fois aussi d'être quelque chose qui est structurant pour un territoire.
Et le projet représente un budget de 8 328 000 euros, financé par la ville de Mende, l'État, la région et le département. Un sujet de Ludovic Terol de 48FM. Comme je vous le disais dans le sommaire, il y a 2 prix dans ce carnet de région et nous commençons avec le prix de la TPE, la très petite entreprise, organisée sur 5 territoires de l'Hérault et 1 du Gard. Ce prix révèle chaque année de belles surprises. À l'occasion de la remise territoriale du cœur d'Hérault, nous vous proposons de découvrir la société Oyas Environnement, créée il y a un peu plus d'un an dans le village de Potier de Saint-Jean-de-Fosse. Alain Mendes de Radio Lodève vous propose un entretien croisé avec ses 2 gérants, Frédéric Bidot et Bastien Noël, récompensés donc dans la catégorie Être.
On est une jeune entreprise puisqu'on s'est créé en mars 2014, donc ça fait un peu plus d'un an et demi, dans une énorme aventure d'inventer un nouveau principe d'arrosage pour les plantes, pour les arbustes, pour les potagers. Ça s'appelle donc les oias. Et les oias, ce sont des poteries en terre cuite dans lesquelles on va mettre de l'eau. Et notre particularité, c'est que nous, on travaille sur la microporosité, donc c'est un peu technique, mais de l'argile cuite. Et ce qui fait que quand on met de l'eau dans nos poteries, elle va sortir de la poterie, la poterie va suinter. Et si cette poterie, je la mets en plein sol, dans un bac, dans une jardinière, elle va par capillarité faire une zone d'irrigation et la plante intelligemment va aller vers la source et se nourrir. Ce qui fait qu'on a toute une gamme de produits qu'on peut retrouver sur Internet d'ailleurs en tapant Oias Environnement très très facilement. Et puis maintenant, on est distribué un petit peu partout dans toute la France. Enfin, c'est une belle aventure et humaine, et économique, et écologique.
Comment ça s'est passé, peut-être la rencontre, et puis voilà, le début de l'aventure?
Alors en fait, la rencontre, elle date d'avant cette aventure-là, puisqu'on se connaissait de notre vie antérieure, où nous étions dans le médico-social, tous les deux directeurs d'établissements médico-sociaux. Et on a eu à peu près dans les mêmes périodes envie de changer de vie et faire des choses différentes. Et donc on voulait vraiment faire quelque chose dans le cadre de l'environnement. Voilà. Un peu par hasard, on a rencontré cette technique d'irrigation au Maroc et on s'est d'abord dit « Ah mais c'est ce qu'on veut pour notre jardin ». Et on a cherché partout, on n'en a pas trouvé. Et voilà. Et de là, l'idée nous est venue de dire « C'est vraiment dommage que ce système d'irrigation qui est extrêmement économe en eau, hein, c'est quand même 50 à 75% d'économie d'eau, ne soit pas plus diffusé quand on sait qu'aujourd'hui, la question de l'eau et de l'économie d'eau est fondamentale pour notre planète.
Il faut se faire connaître, c'est quelque chose qui est nouveau, donc là aussi il y a tout un travail derrière pour se faire connaître.
Ça a été la grande difficulté du lancement de notre projet, c'est que personne ne va nous chercher puisque par définition le produit n'existe pas. Donc à partir de là, ça nous demande de déployer des moyens considérables, une intelligence marketing et de communication qui va faire qu'on va essayer de divulguer cette marque. On voudrait faire de ces oias d'un nom propre, un nom commun. Quand on cherche un arrosage écologique, sain et pratique pour les plantes, on va penser aux oias. Un an et demi après, effectivement, il s'avère qu'on arrive à avoir un peu de reconnaissance par rapport à ça. On est à près de 7000 oias qui sont sur le marché. Donc c'est autant de retours que nous avons. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'à chaque fois qu'une personne a utilisé notre produit, les personnes reviennent convaincues par le système parce que les plantes se développent sacrément bien.
Oias, c'est quoi?
Alors en fait, oias, ça vient de l'espagnol O2LAS, qui veut dire oias, c'est une marmite. On l'a simplifié, francisé, en mettant Y à la place des deux L. Ce qui est très important quand même pour nous, c'est qu'on a fait le choix de s'implanter en local, ici, sur un village de potiers, à Saint-Jean-de-Fosse, parce qu'on voulait une production locale et artisanale. Ce sont pas toujours des choix qui sont faciles à assumer, parce qu'on aurait pu le faire à l'import et à le trouver peu cher dans d'autres pays. Mais pour nous, depuis le début et tout au long de cette entreprise, l'idée, c'était d'avoir ces choix éthiques qui continuent à mener la conduite du projet, parce que c'est ça qui nous plaît aussi. Donc à Saint-Jean-de-Fosse, à l'entrée de Saint-Jean-de-Fosse, après le pont du Diable, sur la gauche, il y a une usine. Et sinon, encore une fois, on nous trouve très facilement sur Internet. On fait de la vente en ligne et on envoie un peu partout en France.
Et vous êtes tous les deux uniquement? Alors, ou pas.
On est tous les deux à avoir monté la structure, mais on travaille avec tout un réseau de d'artisans potiers. On a 2 à 3 personnes qui travaillent chaque semaine sur l'atelier. Et puis ensuite, la plupart des potiers de Saint-Jean-de-Fosse travaillent de près ou de loin avec nous pour faire de la décoration ou de la cuisson. Voilà.
Oias Environnement concourra avec les 17 autres lauréats territoriaux lors de la grande finale du prix de la TPE qui aura lieu le 2 décembre dans le cadre du Forum de la création d'entreprises au Quorum de Montpellier. Et on termine ce carnet avec le deuxième prix dont il était question, le prix littéraire de l'Académie Cévenol, le Cabri d'Or. D'un montant de 5000 euros, il a couronné vendredi dernier en mairie d'Alès la descendante d'une génération d'écrivains, Catherine Vell, pour son 5e roman « Un pas dans les nuages ». Catherine Vell est la petite-fille d'André Chanson, la fille du cinéaste Louis Vell et de la romancière Frédérique Hébrard, qui fut elle-même en 1993 lauréate du même prix littéraire. Autant dire qu'il s'agit d'une véritable tradition dans cette famille, authentiquement cévenole. Le jury a eu à choisir entre 16 ouvrages, dont beaucoup de romans, un choix plus difficile que les années précédentes, selon les membres du jury. Mais au final, c'est l'immersion de ce roman au cœur des paysages cévenols qui aura emporté l'adhésion de ceux-ci. Au-delà des qualités romanesques de l'ouvrage, la particularité d'Un pas dans les nuages devrait intéresser les auditeurs du carnet de région, au-delà du seul territoire cévenol. En effet, l'héroïne imaginée par Catherine Veil sera amenée à animer une radio locale perdue dans le beau et sauvage massif de l'Aigoual.
C'est une idée que j'ai eue en tête alors que j'écrivais mes deux premiers romans. Et le nom de code que j'avais, c'était La Voix de la Montagne. Nom de code, je voulais que le livre s'appelle comme ça. Et finalement, c'est la radio, la toute petite, minuscule radio locale que cette jeune femme va tenir, alors qu'elle n'y connaît rien du tout, qui s'appelle La Voix de la Montagne. Et ça me plaisait de faire parler la montagne. Donc à la fois, il y a le prétexte de la radio, le fait que quand on tient une petite radio, au début, on lui dit, c'est très simple, hein, tu mets de la musique classique, et puis tu dis mardi le marché, jeudi la messe, et vendredi le temple. Et c'est tout. Et cette fille arrive, elle est dans un grand deuil, elle est perdue. Elle voulait s'isoler, mais elle n'imaginait pas qu'elle allait être isolée à ce point-là, parce que c'est vraiment terrible l'endroit où elle est. Et malgré tout, c'est une fille qui est cascadeur au cinéma. Et malgré tout, secouée dans tous les sens par le climat épouvantable et magnifique du Mont-Aigoual, elle va être obligée de se prendre en main. Et d'elle-même, elle va faire ce que vous faites tous avec vos radios, c'est-à-dire qu'elle va élargir. Elle va dire, bon, la musique classique, ça va, mais peut-être qu'ils veulent un truc autre. Et puis, est-ce que je peux faire un truc avec les enfants, etc. Et tout en élargissant ses centres d'intérêt, elle va s'adresser à de plus en plus de monde et peut-être rencontrer des amitiés, peut-être l'amour, et puis des ennemis, parce qu'il y a une forme de thriller aussi dans ce roman.
Catherine Veil, vous avez rendu hommage à vos parents et à votre grand-père, qui sont importants littérairement, non seulement ici en Cévennes, André Chanson et Frédéric Hébrard. Mmh. C'est donc une tradition familiale que d'écrire ?
Écoutez, moi j'ai tout fait quand j'étais gamine, j'étais beaucoup élevée par mes grands-parents Chanson, et puis je voyais mes parents en vacances, c'était un peu l'inverse d'autres familles, et je disais, moi en tout cas ce qui est sûr, c'est que je ne jouerai pas la comédie, et que je n'écrirai pas, parce que les gens diront, cette pauvre fille n'a aucune imagination, elle fait rien qu'à copier les autres. Eh bien à 18 ans, après avoir tourné autour du pot en disant, je vais peut-être être metteur en scène, ou peut-être monteuse, enfin bref, j'ai dit, je veux passer le conservatoire, et j'étais comédienne pendant une dizaine d'années. Et puis, vers 1991, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive. Et j'ai été éditée chez Flammarion, mon premier roman, en 2000. Et c'était difficile parce que mettre ses pas dans les pas de gens qui vous ont précédé, nous, on n'est pas du tout la famille Kardashian. On bosse énormément, on n'est pas des people comme ça. Et je voulais avoir mon ton à moi, me sentir autorisée par moi-même. C'était difficile. Écoutez, je crois qu'il y a Mauriac, Yazemski, Deforge qui sont aussi trois générations dans la foulée d'auteurs. Nous, on est trois générations, peut-être même quatre, parce que Félix Mazurik a écrit. L'arrière-grand-mère de mon père a tenu pendant 72 ans son journal. C'est fabuleux, on va peut-être le faire rééditer. Et je peux vous dire que j'ai un neveu qui s'appelle Alexandre Veil, qui écrit. On a beau essayer de pas copier, c'est pas pour faire comme les autres et les aînés, c'est parce qu'on peut pas s'empêcher quand on aime quelque chose, il faut y aller.
Un pas dans les nuages de Catherine Veil, Cabri d'or 2015, est publié aux éditions Anne Carrière et il peut constituer une excellente idée de cadeau en cette fin d'année. Un reportage réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le carnet de région. Voilà, c'est terminé pour ce carnet de région. La semaine prochaine, c'est Radio Escapade qui prend la rédaction en chef. Rendez-vous à la même heure sur votre radio pour suivre ce programme. À bientôt.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.